Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode du Curious Live. Avec Edith, nous avons la chance d'être accompagnés aujourd'hui par Chloé, Valentina et Tori. Merci à vous. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler de fake news ou de désinformation, voire intox en français. C'est un sujet dont on entend de plus en plus parler, surtout avec les réseaux sociaux. Valentina, qu'est-ce qu'on entend concrètement par fake news ?
Alors, fake news est un mot anglais. En français, on parle de fausses informations, d'infox ou encore de fausses nouvelles. D'après Jean Berthelot de la Gleuté, journaliste indépendant, une information volontairement fausse est diffusée avec un but précis pour provoquer une réaction qu'on a cherché à anticiper. Le dictionnaire Le Robert nous explique que la désinformation se résume à l'utilisation des techniques de l'information de masse pour induire en erreur, cacher ou travestir des faits. Pour mieux comprendre ce terme, je suis allée chercher quelques synonymes et j'ai trouvé intoxication, matraquage ou encore propagande. Ainsi, on remarque que contrairement à la satire ou à la parodie, qui elles ont pour vocation de provoquer des émotions positives, la désinformation a pour ambition de manipuler le lecteur.
Et à quand remonte ce phénomène ? Parce que j'imagine que ce n'est pas quelque chose de nouveau.
Effectivement, la fake news n'est pas un concept qui est apparu avec la presse. Elle existe depuis bien plus longtemps que ça, puisque les personnes alimentant le concept sont les hommes avec un gros H. Ce phénomène a pris de l'ampleur depuis l'arrivée de la presse numérique, mais aussi des réseaux sociaux qui permettent, eux, une propagande rapide. La fake news relève du mensonge. Elle était déjà condamnée au Moyen-Âge par l'Église, pour qui le mensonge était un péché.
Donc Valentina, est-ce qu'il y a des nuances dans le type de contre-vérité ?
Oui, on peut distinguer plusieurs catégories. On a tout d'abord la désinformation, avec donc les fameuses fake news, qui sont des informations fausses et délibérément créées pour nuire à une personne, un groupe social, une organisation ou un pays. Il y a aussi la mésinformation, ce sont donc des informations fausses, mais cette fois-ci non créées dans l'intention de nuire. Et enfin, la malinformation, des informations donc basées sur la réalité, utilisées pour infliger un préjudice à une personne, un groupe social, une organisation ou un pays.
Alors Chloé, tout à l'heure tu nous parleras de la place des fake news dans la politique. Est-ce que justement tu aurais un exemple à nous partager ?
Effectivement, alors... Comment parler de fake news en politique sans aborder le champion en la matière, Donald Trump ? C'est un terme qui envahit la sphère politique depuis les élections américaines de 2016. Et c'est en partie lié à cet homme. C'est notamment à travers son mode de communication favori, les tweets, que sont apparus des milliers de fake news pendant son mandat. Et il est même allé plus loin, car à chaque fois que les journalistes tentaient de rétablir la vérité, Donald Trump les accusait de désinformation. À force de répéter que l'opinion publique était contre lui, ses électeurs ont fini par croire que si l'on disait que Trump mentait, c'est qu'il disait la vérité. Mais si certaines informations qu'il partageait semblaient grotesques, et donc sans réel danger, d'autres ont tout de même ébranlé certains moments de la vie politique. Rappelez-vous, le 6 janvier 2021, à Washington, l'envahissement du Capitole par des milliers d'émeutiers. Cette violence a été alimentée par Donald Trump. Il a commencé par répéter pendant des mois qu'il ne perdrait jamais l'élection présidentielle. Et en fait, lorsqu'il a perdu, il a dénoncé des fraudes massives en affirmant que son parti avait des preuves. C'était évidemment faux, mais ce sont bien les mensonges de Donald Trump qui ont provoqué cet assaut.
Eh bien justement, pour éviter de se faire avoir par de fausses informations, nous recevons aujourd'hui Robert Bourgoin, journaliste franco-canadien et qui se spécialise depuis quelques années dans la formation de journalistes par rapport aux techniques de vérification sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et nous recevons également Nicolas Corté, journaliste pour JHM Quotidien en Haute-Marne. Première question pour vous, Robert. Comment, en tant que journaliste, vous vous assurez qu'une information est vraie ?
C'est très important, lorsqu'on trouve une information sur un site web, de se poser de la question de savoir où nous sommes. Normalement, n'importe quel site sérieux se présente. Si vous n'avez pas ces informations, que le site, vous ne le connaissez pas, c'est la première fois que vous le visitez, attention, méfiance. Si on veut savoir si c'est un site journalistique, ben, normalement, on regarde dans les articles si les sources sont citées. C'est la base en journalisme. Lorsqu'on fait un reportage, on dit « selon » et on met des liens hypertextes pour pointer vers nos sources.
Et Nicolas, qu'en est-il de cette vérification pour la presse locale ?
La vérification, en réalité, il n'y a pas tant de différence que cela à faire entre les journalistes de presse locale ou de presse nationale. Il y a toujours quelque chose qui est important, c'est de vérifier et de recouper ses sources. Et ça, ça vaut aussi bien pour le journal de la Haute-Marne que pour le journal Le Monde. Alors ensuite, pour la vérification, en presse locale, évidemment, il y a un terrain plus réduit, il y a la connaissance du territoire qui aide, Il y a aussi, au fil du temps, une identification des interlocuteurs qui est présente et des relations de confiance qui ont pu s'établir avec eux au fil des années. Après, ça n'empêche pas de toujours vérifier, toujours recouper.
Et pour le lecteur, alors, est-ce que c'est plus compliqué de vérifier les informations dans la presse locale que dans la presse nationale ?
En local, évidemment, eh bien, les gens sont présents sur le territoire qui est couvert. Ils ont eux-mêmes leurs propres informations, ils ont eux-mêmes des contacts dans la vie de tous les jours, et ils peuvent savoir plus rapidement, par exemple, si une erreur est commise par le journal, ce qui peut toujours arriver. Donc, évidemment, pour le lecteur, il y a peut-être plus d'exigences vis-à-vis de la presse locale, parce qu'ils ont davantage de moyens de savoir, de vérifier les informations qui sont données, de par leur présence sur le territoire.
Robert, je reviens vers vous. On constate que les personnes sont de plus en plus méfiantes vis-à-vis des médias. Est-ce qu'il faut donc les remettre en question ?
Alors, bien sûr qu'il faut remettre en question les médias. Bien sûr qu'il faut être critique. Bien sûr qu'il faut se méfier. Il ne faut pas mettre tous les médias dans le même panier en disant « les médias », comme s'il y avait une chose qui s'appelle « les médias ». Il y a du bon et il y a du moins bon. C'est comme dans tout. On ne peut pas se plaindre de recevoir une mauvaise information si on ne se fie qu'à un seul média. Le problème, à ce moment-là, c'est vous. Ce n'est pas « les médias », entre guillemets, comme on dit. On n'a jamais eu accès à autant d'informations, donc c'est à nous de faire un effort. Avoir une bonne information, ça demande un petit effort. L'effort, ça veut dire varier ses sources, ne pas se fier toujours à une seule source, parce qu'à ce moment-là, il ne faut pas venir se plaindre. Le problème, ce n'est pas les médias, c'est vous.
Oui, et c'est pour ça qu'il est important de lire différents médias, et c'est encore mieux d'ailleurs s'ils proviennent d'opinions politiques différentes. Est-ce que vous auriez d'ailleurs, Robert, une fake news qui vous a marqué, que vous aimeriez partager ?
Ouf, il y en a tellement, mais juste une infox, parce qu'en français on dit infox hein, plutôt que fake news. Une infox récente, c'était assez amusant. C'est Étienne Klein qui a une émission de radio, justement, je crois que c'est sur France Culture, qui est un scientifique lui-même et qui a publié une photo sur fond noir disant que c'était Proxima du Centaure, ou un truc comme ça, l'étoile la plus proche de notre système solaire, photographiée par le télescope spatial James Webb. Et il a mis ça sur Twitter et on voit une espèce de cercle et puis qui est rouge avec des trucs un peu torturés dedans. On se dit c'est comme le soleil finalement et on se dit waouh, c'est extraordinaire les prouesses que notre nouveau télescope spatial peut faire. En fait, c'était quoi? C'était une tranche de chorizo. C'était une tranche de saucisson espagnol photographiée sur un fond noir qui donnait l'impression que c'était une étoile.
Alors d'ailleurs, il avait précisé que c'était une blague, il s'était d'ailleurs excusé pour ça. Et vous, Nicolas, du coup, même question, est-ce qu'il y a une fake news qui vous a marqué et que vous aimeriez nous partager ?
Quelque chose qui me revient spontanément à l'esprit, c'est la fausse annonce de la mort de Pascal Sevran il y a un certain nombre d'années par la radio Europe 1 qui, à cette occasion, a été un exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire, où le rédacteur en chef était alors Jean-Pierre Elkabbach, un journaliste quand même réputé, qui a eu l'information par une seule source et qui a imposé, malgré les réticences de son équipe, la diffusion de l'information en flash spécial, information qui s'est révélée fausse puisque Pascal Sevran a alors appelé lui-même en direct la radio pour s'indigner et pour montrer qu'il était toujours en vie. Voilà.
Merci à vous, Robert Bourgoin, journaliste qui se spécialise depuis quelques années dans la formation de journalistes par rapport aux techniques de vérification sur Internet et les réseaux sociaux. Et aussi à Nicolas Corté, donc journaliste pour JHM Quotidien en Haute-Marne. À mon tour maintenant de vous parler d'une fake news. Je vous emmène en 1969. Cette année-là, les Beatles étaient déjà 4 garçons dans le vent et venaient de sortir leur album Abbey Road, vous savez, celui où on les voit sur le passage piéton devant leur studio à Londres. Eh bien, à partir de cette couverture d'album, des personnes ont lancé une fake news. Paul McCartney serait mort dans un accident de voiture en 1966 et a été remplacé par un sosie. Alors je vous rassure, c'est une fake news. Paul McCartney est toujours vivant. À 80 ans, l'ex-bassiste des Beatles continue de monter sur scène et d'écrire des chansons pour le plus grand bonheur de ses fans. Et justement, on va en profiter pour marquer une pause musicale avec une de ses plus belles chansons, Yesterday. On se retrouve tout de suite après sur RCF en Bourgogne.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe.
C'est le MAG sur RCF en Bourgogne avec les étudiants du master Massy, spécialisé en stratégie de communication internationale, Clément Michelot.
Dans ce deuxième épisode du Curious Live, nous vous parlons des fake news et je vous évoquais à l'instant la folle rumeur sur la mort de Paul McCartney que l'on vient d'entendre. Valentina, est-ce que toi aussi tu aurais une fake news à nous partager ?
Eh bien oui, alors la fake news dont je vais vous parler traite de la Covid-19. Je pense que vous en avez déjà entendu parler car elle concerne les vaccins. Beaucoup pensaient que si nous nous faisions vacciner, nous allions être fichés car avec le vaccin, on nous introduisait une micropuce. Des puces donc connectées à la 5G permettraient de tracer et ficher toutes les personnes vaccinées. Il a même été mentionné sur un site internet, biohackinfo.com, que Bill Gates développait un vaccin contre la Covid-19 qui permettrait de géolocaliser la population vaccinée. C'est bien entendu faux. La Gates Foundation soutient en fait le développement d'une technologie qui permettrait de savoir qui a été vacciné, notamment pour les vaccinations concernant les maladies infantiles. Mais ce n'est pas la seule fake news que l'on peut trouver concernant la Covid-19. En effet, on pensait aussi que le vaccin de la Covid-19 a été volé dans un laboratoire canadien par des espions chinois ou encore que l'ail pouvait guérir le Covid.
Alors malheureusement, il n'existe toujours pas de vaccin contre les fake news. Et si ces dernières ont pris davantage d'ampleur ces derniers temps, c'est notamment dû à l'essor d'Internet dont nous vous parlions lors du premier épisode. Tori, qu'en est-il donc de ce phénomène à l'ère du numérique ?
Alors bien sûr, les plateformes de médias sociaux offrent un terrain de jeu idéal pour publier et diffuser des fake news. L'explosion d'Internet et la naissance de multiples réseaux sociaux dans les 15 dernières années ont entraîné une explosion d'informations trompeuses et souvent fausses.
Alors comment expliquer ce phénomène ?
Eh bien, la réponse réside dans la nature propre des réseaux sociaux. Les utilisateurs créent leur propre communauté. Dans chaque communauté se trouvent des acteurs en qui l'utilisateur a confiance et se réfère dans ses choix et ses actions. Or, nous privilégions l'information provenant de personnes en qui nous avons confiance. Ainsi, les désinformés vivent dans une sorte de bulle algorithmique remplie de fausses informations fournies par les médias sociaux qu'ils privilégient pour s'informer. Dans ces mêmes bulles, les personnes partageant les mêmes opinions communiquent entre elles sans égard pour ceux qui pensent différemment. Il n'y a donc plus de confrontation d'idées et les individus se retrouvent bloqués dans des croyances. Ils sont alors très réceptifs à la désinformation. Les réseaux sociaux ont aussi démultiplié la quantité d'informations accessibles au grand public, mais malheureusement au détriment de la qualité de l'information. La souplesse et la facilité d'emploi des réseaux sociaux a amplifié les phénomènes de fake news. Qu'il s'agisse d'une entreprise délibérée, d'une erreur ou d'une négligence, les dégâts peuvent être très importants. On retrouve notamment la diffamation de personnes ou de marques, ou bien encore l'ingérence politique.
Et donc Tori, est-ce qu'il existe des solutions face aux fake news ?
Alors malheureusement non. Cependant, des outils et des armes législatives ont été mises en place afin de les limiter au maximum. En France, par exemple, deux lois ont été votées entre 2018 et 2020. La première lors des périodes électorales, relevant de la lutte contre la manipulation de l'information, qui permet de saisir un juge afin d'exiger sous 48 heures le retrait d'une fausse information en ligne. Et la deuxième, hors période électorale, qui impose un devoir de coopération des plateformes dont le contrôle est confié au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cependant, les textes ne prévoient pas de sanctions précises contre les opérateurs qui refuseraient de collaborer avec la justice et la légitimité des juges à définir ce qui est faux ou non pourrait être remis en question. Un gros travail législatif reste donc à faire pour la question de la désinformation sur Internet et sur les réseaux sociaux.
Et donc justement, concernant les réseaux sociaux, on parle souvent de l'effet chambre d'écho. Edith, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement en quoi ça consiste ?
Être dans une chambre d'écho sur Internet et les médias sociaux, c'est quand vos recherches passées influencent le flux d'informations que vous recevrez. Vos recherches seront retenues par les algorithmes sur Google et les médias sociaux. Ils vous permettront de trouver plus facilement des personnes partageant les mêmes idées, croyances et tendances politiques que vous, et vous recevrez sans arrêt sur les réseaux sociaux des informations correspondant à vos opinions préexistantes, en fait. Donc, une chambre d'écho, c'est un phénomène d'exposition sélective à l'information qui vient renforcer notre biais de confirmation. Et le problème avec l'effet de chambre d'écho, c'est que vous serez de moins en moins exposé à l'opinion des autres, et cela peut amener des groupes ayant une opinion similaire à adopter des positions plus extrêmes sur un sujet.
Et est-ce que tu aurais un exemple concret à nous donner ?
Alors, un exemple de chambre d'écho qui vous parlera peut-être, c'est le mouvement anti-masque, anti-vaccin, alimenté par les fake news dont Valentina a nous parlé. Pour faire simple, si vous pensez que les masques sont nocifs pour votre santé ou que c'est une recherche que vous avez fréquemment effectuée dans le passé, vous êtes susceptible d'être en contact avec d'autres qui pensent également que les masques nuiront à votre santé et vous serez pris dans une chambre d'écho comprenant des informations et des informations rejoignant votre opinion ou correspondant à la recherche que vous avez effectuée sur le sujet.
Et donc, Edith, comment savoir si on est pris dans une chambre d'écho et aussi comment éviter le piège de la chambre d'écho ?
Alors, si vous pensez être pris dans une chambre d'écho, demandez-vous, ai-je tendance à uniquement lire des sources partageant toutes la même opinion sur un sujet ? Demandez-vous également, est-ce que cette opinion que je vois partout sur la toile, est-ce qu'elle va à l'encontre du point de vue de l'opinion publique ? Si vous répondez oui à l'une de ces questions, alors vous êtes probablement pris dans une chambre d'écho. Il n'y a aucun moyen sûr de les éviter, mais il y a des choses que vous pouvez faire pour éviter la désinformation et vous tenir au courant. Par exemple, veillez à utiliser plusieurs sources ayant des avis divergents sur un sujet afin de bien vous tenir informé. Et comprenez aussi que ce n'est pas parce que vous voulez que quelque chose soit vrai que ça le sera forcément.
Et donc, est-ce que tu aurais une fake news que tu souhaiterais nous partager, Edith ?
Alors oui, une théorie du complot qui m'a particulièrement marquée, c'est le Pizzagate. C'est une rumeur anti-Hillary Clinton lancée par des internautes pro-Trump dans les derniers jours de la campagne pour l'élection présidentielle américaine de 2016. Alors le Pizzagate est parti des emails piratés de John Podesta, le directeur de campagne d'Hillary Clinton. Ils ont été diffusés par des conspirationnistes qui ont assuré partout sur les réseaux sociaux que Podesta dirigeait un réseau de pédophiles avec James Alefantis, un leveur de fonds pro-démocrate également gérant d'une pizzeria de Washington DC. Conclusion, Hillary Clinton et le Parti démocrate ont été bien décrédibilisés avant les élections et un homme de 28 ans armé d'un fusil d'assaut AR-15 en est venu à rentrer dans la pizzeria de James Alefantis. Il a tiré plusieurs coups de feu, sans faire de blessés, heureusement, son but était de libérer les enfants. Comme quoi, répandre des théories du complot sur Internet peut vraiment avoir des conséquences dans la vie réelle.
Alors ça tombe bien que tu nous parles d'Hillary Clinton, car tout à l'heure on parlait également de Donald Trump. Chloé, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet sur la place des fake news dans la politique ?
Alors, détourner la vérité à des fins politiques, ça ne date évidemment pas d'hier. Les fake news ont donc fini par s'inviter dans ce domaine. Quoi de mieux pour influencer la population qu'une information transformée à notre avantage ? Mais au-delà de vouloir créer le buzz en propageant des fake news, en politique, ça devient véritablement un outil à la diffusion d'informations. Et ces fake news sont d'autant plus nombreuses en période électorale. Elles deviennent un vrai fléau, car la population est submergée d'informations vraies et fausses. Ces fake news participent à des tentatives de désinformation et d'influence de la population. Mais si on note que dans les démocraties, le débat est libre, que la population a divers moyens de s'informer et donc de vérifier ce qu'on lui dit. Pour les régimes autoritaires, les fake news peuvent se transformer en véritables armes politiques. Elles alimentent les campagnes de propagande ou encore maintiennent les peuples dans un état d'ignorance de la réalité. Ça peut être des mécanismes très simples comme modifier des photos ou des chiffres à l'avantage des politiques.
Comme quoi il faut savoir faire preuve d'esprit critique avant de se rendre aux urnes. On arrive presque à la fin de cette émission, mais avant de nous quitter, Tori, est-ce que tu aurais une dernière fake news à nous partager peut-être ?
Alors oui, il paraîtrait que retenir sa respiration pendant plus de 10 secondes permettrait de savoir si on est positif à la Covid-19. Alors c'est bien évidemment faux. L'OMS a précisé que les symptômes les plus fréquents du coronavirus sont la toux sèche, la fatigue et la fièvre. Certaines personnes peuvent cependant développer des formes plus graves de la maladie, comme une pneumonie. Le meilleur moyen de savoir si vous avez attrapé le virus est d'en obtenir la confirmation par un test de laboratoire.
On ne peut donc pas confirmer par soi-même avec cet exercice de respiration si l'on est positif à la Covid-19 et cela peut même s'avérer très dangereux.
Alors merci pour cette information car moi je pensais que c'était vrai. Merci à nos chroniqueuses Chloé, Valentina et Tori. Merci à nos invités Robert Bourgoin et Nicolas Corté pour leur temps et leur expertise. Avec Edith, nous espérons que les fake news ont plus de secrets pour vous. Pour plus d'informations, vous pouvez également consulter notre blog sur junioragencemassy.fr/blog, le Curious Blog. Et on se retrouve le mois prochain pour échanger sur une nouvelle thématique. À bientôt. Votre soirée continue sur RCF en Bourgogne. La suite dans une minute de C'est le Mag.